Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Bonjour Jaunet.
Bonjour Christine.
Très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. C'est pas la première fois que tu viens à Laval, puisque je crois que la première fois, si mes souvenirs sont bons, c'était en 2008. Et ça t'a tellement plu que tu es revenue après pour en résidence d'écriture. Alors Jaunet, j'ai une première question à te poser. Je sais que tu as fait des études de philo, et puis après tu as fait Sciences Po à Bordeaux, si mes souvenirs sont bons. Et puis tu as travaillé, tu es rentrée dans le monde du travail, et puis tu as décidé de te consacrer à l'écriture. Alors je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé ce choix?
C'est-à-dire pourquoi on écrit quoi?
Pourquoi est-ce qu'on décide de consacrer son temps à l'écriture?
Alors moi j'écrivais un petit peu avant de faire mes études, avant de travailler. Mais en fait comme un petit peu tout le monde quoi, je pense comme tous les enfants, comme tous les jeunes, on écrit un peu, des petites poésies, des choses comme ça. Je me suis souvent demandé, moi, pourquoi on écrivait les autres ou moi, et je pense qu'il y a quelque... Si on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose... Il y a une part de mystère, en fait. C'est quelque chose de mystérieux. On peut essayer de se dire que, dans mon cas, par exemple, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup de livres, où il y avait des gens qui écrivaient aussi. Il y a aussi le... J'ai eu un rapport très tôt donc, à la lecture, j'adorais lire. Et je m'apercevais aussi... qu'autour de moi et au lycée, mes professeurs posaient les écrivains comme des gens un peu à part, comme des gens... j'étais dans un lycée classique où la littérature était vraiment, vraiment quelque chose de très important.
Oui, à cette époque-là, je pense, c'était comme à la mienne, la littérature, c'était quelque chose de fondamental.
Et donc, tout d'un coup, on s'aperçoit que ces gens-là sont vénérés, les écrivains, et... J'avais envie, moi, déjà, enfin, je ne savais pas, tu vois, entre la peinture, mon père peignait, il écrivait de la poésie, etc. Je ne savais pas la peinture, je veux faire de l'opéra, je ne savais pas très bien, tu vois, le théâtre. Après le théâtre, j'ai vu que les rôles qui m'intéressaient, comme Hamlet, c'était des hommes. Je me suis dit, non, mais je n'ai pas du tout envie d'avoir des petits rôles. Je voudrais être Hamlet, je voudrais être Cyrano, etc. Et puis, je crois que j'avais... Ça bougeait en moi, en fait, le fait d'écrire. Mais j'ai voulu faire mes études... Et c'était normal, quoi, une famille, c'est normal de faire des études, de longues études. Et puis, ça m'a rattrapé un jour. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire, quoi. C'est venu comme ça. Mais tu vois, toutes ces indications, elles sont plates et banales finalement. On peut se donner, on cherche toutes les raisons. Je crois qu'il y a une grande part de, enfin voilà, c'est ce que dit McEwan aussi. Il dit c'est mystérieux. Et moi, je crois beaucoup à ça. J'ai pas de réponse vraiment. Mm-hmm. C'est quelque chose qui te ronge, qui te met, au bout d'un moment, t'y vas, quoi.
D'accord. Donc voilà. T'as commencé par écrire de la poésie. Oui. Et puis, monter un spectacle que tu as joué en France, en Arménie et au Japon. Alors, je voudrais te parler du Japon, parce que je pense que c'est un pays qui t'est très cher. Et tu as séjourné plusieurs fois, tu as fait des résidences. Qu'est-ce qui t'attire dans ce pays-là?
Au début... J'avais mon rapport au Japon, c'était le rapport avec la littérature seulement.
Ouais.
C'est simplement parce que j'avais écrit une chanson qui a eu du succès là-bas. Et donc, on m'a invité. Et le producteur m'a dit, mais Jaunet, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais des spectacles, j'écris de la poésie. Ok, vous nous faites un spectacle, carte blanche, et vous revenez. Et c'est parti comme ça. Donc je montais des spectacles et avec des japonais, des musiciens sur scène, avec aussi d'autres comédiens et chanteurs que j'invitais dans mes spectacles. Et donc ça s'est renouvelé comme ça. Et donc du coup, là j'ai découvert que j'aimais ce pays en fait.
Alors qu'est-ce qui est différent de la France? Qu'est-ce que tu
Pour
as
moi,
ressenti
c'est, Oh, c'est difficile, mais peut-être à la fois une hyper activité, beaucoup d'énergie et en même temps beaucoup de calme. C'est-à-dire que on travaille beaucoup, mais dès qu'on sort, on va se promener en forêt, on se recueille devant les temples. Et j'aimais ce temps de cette lenteur, ce rapport aussi aux divinités. Parce que quand on se promène en forêt, les Japonais s'inclinent devant un ruisseau, embrassent les arbres. Il y avait toute cette... quelque chose de très ancien, en fait, dans une modernité. Bref, je m'y sens bien, puis surtout aussi qu'on travaille beaucoup là-bas, et ça me plaît.
Ouais. Est-ce que quand tu travailles là-bas, quand tu es en résidence d'écriture là-bas, est-ce que ton écriture est nourrie autrement que lorsque
Alors,
tu es en France?
Je ne suis pas en résidence d'écriture au Japon.
Non.
J'y vais pour mes spectacles.
D'accord.
Mais peu à peu, j'ai commencé à écrire sur mes voyages, sur la ville où j'habite, c'est-à-dire à Yokohama. J'ai évidemment aussi fait toute une promenade pour suivre un petit peu les lieux où écrivait et où a vécu Mishima, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai fait un grand périple alors dans le nord du Japon pour reprendre le chemin de Saigyo et de Basho, qui étaient des poètes et qui ont fait ce chemin entre le nord de Tokyo jusqu'au nord, jusqu'à Aomori. Et donc là, je l'ai fait l'hiver, à pied. Saigyo était un poète, un moine, et donc c'était à pied. Hein. Basho aussi, bien sûr, l'a fait à pied. Et donc, là, j'ai écrit des textes, et donc c'est venu, et dans les dernières années de mes voyages au Japon, j'ai monté un spectacle... à partir de textes, de poèmes de la Saintonge et de l'Onis, moi d'où je viens, et puis avec les textes sur ce chemin, ce voyage que j'ai fait, un petit peu comme Basho des siècles avant. Voilà.
D'accord. Donc tu avais été sélectionné à Laval pour ton premier roman, Milhouse ou l'idiot magnifique, et à la suite de quoi tu as postulé pour une résidence d'écriture. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs qui me restent de cette résidence, mais j'aimerais savoir quels souvenirs, toi, tu gardes de cette résidence d'écriture à Laval.
Un temps d'écriture, puisque c'est là où j'ai écrit, durant cette résidence, mon troisième roman. Donc un temps d'écriture extrêmement calme. J'en garde aussi les activités, je ne sais pas comment on dit, les interventions.
Les interventions, oui.
Dans des écoles, des rencontres, dans des bibliothèques. Donc j'en garde des moments passés avec des gens où on a parlé, pas seulement de mes livres, mais de littérature. Voilà, de notre rapport aux livres. Du temps de la lecture, des découvertes.
Si mes ouais. souvenirs sont bons, il me semble t'avoir accompagné dans un établissement scolaire à Goron, je crois.
Oui.
Et j'ai encore en tête, enfin, je vois encore le rapport que tu avais avec ces jeunes à qui tu avais demandé de réécrire un passage. Soit la fin du... Je ne sais plus exactement si c'était le début de Milhouse ou si c'était la fin. Et quel enthousiasme t'avait suscité ces jeunes-là, qui en fait n'étaient pas habitués à cette écriture. Ça m'avait frappé de voir le rapport que t'avais su établir tout de suite avec ces adolescents-là. Donc ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et j'ai gardé ça très, dans un coin de ma tête. Donc tu as écrit après d'autres livres, il y a eu Milhouse, après il y a eu Nostoc, alors qui nous emmenait un petit peu au Moyen-Âge, dans une atmosphère un peu particulière, puisque le héros se battait, enfin luttait entre le bien et le mal. Et puis ensuite il y a eu Porte en 2012, et puis Fergus, Année sauvage en 2017. Et dans chacun de tes romans que j'ai relus, il y a des voix qui s'imposent à nous, des voix sensibles. On va peut-être en profiter pour faire une première pause musicale avec Cold Song de Klaus Naumi. Merci pour ce soir, Jonet, parce que je pense que ça ne laissera pas les auditeurs insensibles. On ne peut pas rester insensible en écoutant cette voix. Alors parlons de ces voix dans tes romans, là. Des voix particulières. Dans Milhouse, dans Porte, dans Fergus, tu nous mets en contact avec des êtres, alors je dirais entre guillemets, différents, puisque tu abordes la folie, le handicap comportemental. Pourquoi ce thème récurrent chez toi?
Alors différent...
Je dis bien différent entre guillemets.
Qu'est-ce que c'est difficile de parler en fait des personnages qui ne sont plus vraiment des personnages parce que qui viennent presque des êtres humains en fait.
Oui, ce sont des êtres humains. Et ça, tu sais très bien faire appel à toutes ces sensations chez les lecteurs, les sensations olfactives, les sensations visuelles, les sensations auditives, tout ce qui touche le lecteur au plus profond de lui-même.
C'est-à-dire différents handicaps compensants. Non, en fait, c'est tout ce que je dois ressentir, mais de ce qui est autour de moi, en moi et aussi des autres, c'est-à-dire sont des êtres humains, c'est de l'homme humain, c'est-à-dire ils ont peut-être la particularité, donc ils sont pas différents, ils ont cette particularité finalement d'être ce qu'ils sont sans se soucier, sans avoir peur, disons. Du monde dans lequel ils sont. Ils ont leur vision du monde, leur façon de voir, et ils s'expriment à partir de là. C'est-à-dire que les comportements ne sont pas des comportements. Les codes sont pour eux quelque chose, peut-être, Louise, par exemple, est vraiment contre. Hein, elle est comme elle est, qu'on ne l'emmerde pas. Quoi. C'est vraiment ça, Louise. Ouais. Mais le petit garçon dont elle, qui est autour d'elle, qui est toujours avec elle, Miloz, que tout le monde appelle l'idiot, mais lui, par contre, il ne se rend pas compte. Il est comme il est. Mais ils ont ce point commun, mais que nous avons tous, sauf que les codes, les obligations, eh bien, nous empêchent, en fait. Et moi, ce que je fais, c'est, je traverse ce mur-là. Voilà, c'est tout.
Voilà, ouais. C'est tout. Mais c'est ce que j'ai ressenti à la relecture de tes romans. Et je trouvais qu'il y avait, dans Fergus notamment, il y a énormément d'humour. Mais un humour, l'endroit où sont ces enfants là, un peu au rebut de la société, qu'on ne veut pas trop montrer, s'appelle Beau Séjour. Ça n'a pas grand-chose de très joli. Et puis il y a de l'humour dans leurs échanges, dans le nom des personnages. Et il y a une phrase qui m'a marquée. Ça m'avait déjà marquée la première fois que j'ai lu, mais là je me suis dit, ah oui, c'est génial cette phrase. Fergus qui dit, en parlant des gens dits normaux, ils se moquent de nous parce qu'on est différents, mais eux, on se moque d'eux parce qu'ils sont tous pareils. Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était génial.
C'est génial, mais attention, c'est dit dans le texte, c'est Kurt Cobain qui dit ça. Voilà. Ouais. Et j'ai trouvé, et c'est exactement, c'est ça. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que tu parles d'humour, parce qu'effectivement, et je crois que dans mes livres, mais même ces personnages ont de l'humour. Parce qu'il faut en avoir.
Ils sont pleins d'humour. Et alors, ils défient même les psychologues, quoi, parce que les psychologues n'arrivent pas du tout à comprendre comment ils fonctionnent. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pousser l'humour vraiment très loin. Ça montre peut-être un peu ce que tu penses des psychologues et des limites de la psychologie. Mais c'est plein d'humour et c'est plein. Et on sent que c'est pas par hasard. On sent que quand tu mets des mots dans tes phrases, ils sont choisis. Tes phrases sont construites. Il y a une musique dans tes phrases. Il y a tout ça dedans. Donc, est-ce que quand tu écris, tu essaies de trouver les mots justes, de les placer justes pour toucher le lecteur ? La sensibilité du lecteur. Est-ce que toi, c'est conscient chez toi lorsque tu écris ?
Oui, alors, je dirais que pas pour toucher le lecteur, mais pour, j'ai envie de dire, parce que quand on écrit, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut, en fait ? On veut être lu. Donc, être lu, c'est que la personne qui prenne le livre, ça, j'ai envie de dire, ça, on soit embarqué, ça glisse, ça soit... et donc il faut que le texte, la langue, elle puisse nous emporter, nous capter. Et aussi un travail d'écriture, la langue poétique, parce que la littérature, c'est de la poésie. Mm-hmm. Hein, y a pas de... La littérature, quand on lit Virginia Woolf, ou les écrivains aujourd'hui, je pense au dernier livre, par exemple, de Carole Martinez, ce n'est que poésie, la littérature. Et donc, je fais un travail, oui, parce que c'est ça, mon travail. en dehors de l'histoire, j'ai envie de dire. Mmh. C'est d'abord une histoire d'écriture.
Ouais, 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 ouais.
C'est ça, c'est trouver, trouver un style comme ça, quelque chose, une manière de dire, une manière de voir, pour aller au-delà, pour avoir un regard autre, ouvrir l'horizon avec les mots. Et donc oui, c'est un travail, et donc oui, je fais comme beaucoup, je lis mes textes à haute voix, et je me dis, ah non, là, la virgule, non. Non. Et puis, quand vous choisissez un verbe, vous avez des tas de dicots, vous dites, ah oui, non, mais ça, je croyais que ça voulait dire ça. Non, c'est plutôt ça. Cette justesse, c'est parce qu'il faut apporter aussi, et quand on parlait des jeunes tout à l'heure, quand je suis intervenu il n'y a pas très longtemps aussi dans des écoles, je leur montre toutes les ouvertures, toutes ces possibilités de mots, y compris l'argot, y compris les mots familiers. Hein. C'est-à-dire que dans une école, je vais aussi bien leur lire un texte de Virginia Woolf, un extrait, quelques phrases, et puis aussi quelques phrases de Geoffrey qui utilise aussi des grossièretés. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est tout ça, la langue.
C'est ça,
cet amour-là de la langue.
Ouais.
Et quand on la communique, quand on la montre, eh ben, ça marche. Ça marche toujours.
Alors, tu as découvert un livre, tu as découvert une langue.
Oui.
J'aimerais bien maintenant, si tu veux bien, que tu nous lises un extrait.
Alors, je vais vous lire un extrait d'un livre de Michel Galen, le titre « Ce que Magella n'aimait pas ». Et j'ai découvert ce livre avec bonheur à la bibliothèque de Laval, donc, à la bibliothèque Legendre, où je suis, parce que je suis en résidence, j'écris, je travaille là-bas. Et ce qui est très agréable, c'est qu'ils ont des tables, et tous les jours, ils nous présentent des livres nouveaux. Alors, je découvre des tas de bouquins. C'est une Irlandaise, c'est un premier roman, un livre qui est traduit et qui est aux éditions de Joël Losfeld. Et il commence ainsi. Nous voilà. Dans sa tête, Magella tenait une liste de trucs qu'elle n'aimait pas trop. Les 10 premiers n'avaient pas changé depuis 7 ans. Les bavardages, les commérages et autres conneries, les contacts physiques, le bruit, les lumières trop fortes, les trucs parfumés, Madame Connasse, la sueur, les blagues, le maquillage, la mode. La liste complète des trucs que Magella n'aimait pas trop comptait en réalité 97 rubriques qui comportaient chacune des sous-catégories. Par exemple, le maquillage se subdivisait en vernis à ongles, rouge à lèvres, fond de teint, mascara, etc. Chaque sous-catégorie étant elle-même détaillée. La liste des trucs que Magella trouvait vraiment intéressants était beaucoup plus courte. Manger, Dallas, sauf la saison 1985-1986, la chaîne payante Gold, Papa, Mémé, la Chinswick, les antidouleurs, nettoyer, le sexe, les cheveux. Parfois, Magella pensait qu'elle devrait condenser la liste complète des trucs qu'elle n'aimait pas trop en la réduisant à un seul. Les autres. C'était les autres qui disaient de la merde. C'était les autres qui inventaient les règles selon lesquelles on était cool ou pas en fonction des vêtements qu'on portait. C'était les autres qui jugeaient une moitié de l'humanité parce qu'elle se maquillait et l'autre parce qu'elle ne se maquillait pas. C'était les autres qui allumaient la lumière, faisaient du bruit, transpiraient, se battait, pleurait, criait. À bien y réfléchir, en fait, Magella n'aimait pas trop les autres.
Merci beaucoup. On va peut-être écouter encore une autre voix que tu as choisie, puisque c'est Nina Simone dans « Wild is the Wind ».
Give me more than one satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is a wind. And wild is the wind.
connais, les auditeurs pourront te retrouver le 17 octobre lors de l'ouverture de saison de l'association Lecture en Tête, soirée à la au Médiapôle, Café de la Médiapôle à Laval à 20h30, soirée au cours de laquelle tu interviendras peut-être, on l'espère, et surtout au cours de laquelle seront dévoilées la sélection des romans pour 2025. Avant de nous quitter, j'aimerais livrer à ta réflexion, et peut-être à la réflexion des auditeurs, un passage que j'ai relevé dans l'édito de Jean-François Boutor, paru dans Ouest France vendredi dernier. Voilà ce qu'il dit. « Même si la littérature ne sert à rien, elle nous est indispensable tout autant que les sciences. Nous en avons besoin pour devenir plus à même de comprendre les autres et nous-mêmes, dans nos limites, dans nos passions, dans nos talents, parce qu'elle peut nous rendre plus humains. » Je ne sais pas ce que tu penses de ce qu'il a dit. Je trouve ça très juste. Jonet est en train d'écrire. Elle vous a dit tout à l'heure qu'elle était à la médiathèque de Laval. Elle écrit beaucoup, très sérieusement. Alors, tu nous mets un petit peu l'eau à la bouche. Le prochain roman ?
En quelques mots, le prochain roman, c'est deux personnages. Un jeune garçon qui est à Paris, étudiant, et qui commence un petit peu à s'inquiéter parce que sa mère est reporter de guerre. Elle est en Syrie, à Homs. Et il n'a plus de nouvelles depuis quelque temps. Donc on voit un petit peu cette vie, sa vie qui va un petit peu être modifiée. Enfin, c'est cette peur, cette angoisse, cette colère aussi. C'est comment on peut avoir une mère reporter de guerre. Et évidemment, on va retrouver ensuite ce reporter de guerre, Aude, qui se trouve à Homs, lorsque les bombardements de Homs, le grand bombardement de Homs, le dernier, va commencer et que la ville est assiégée. Voilà.
Tout un programme. Donc voilà, encore la littérature en marche et la littérature présente tous les jours, dans toutes les situations. Merci beaucoup, Jonet.
Merci à toi.